Eh bien, nous arrivons au terme de cette nouvelle édition de la journée d'études, actualité et de la recherche dans les bibliothèques BPI-NCIB. C'est Damien Day, donc chargé d'évaluation au service études et recherches de la BPI, qui va revenir sur les enquêtes récentes qui ont été réalisées dans le cadre des réouvertures de la BPI après les deux phases de confinement. Voilà. La parole à toi, Damien.
Alors, j'attends que la présentation s'affiche. Donc, comme le disait Christophe, on va vous présenter les données qu'on a pu enregistrer sur le retour des publics cette année suite aux réouvertures dans le contexte des suites du confinement. Donc, ma présentation se découpera en quatre points. Donc, je vous ferai un petit rappel du contexte et des conditions de réouverture et de fonctionnement de la BPI à partir de juillet. J'essaierai de vous dresser une petite photographie globale de la fréquentation 2020. On évoquera ensuite des points de constante et de changement dans la structure des publics et de leurs usages, en tout cas dans ce qu'on a pu enregistrer. Et enfin, on vous parlera d'un besoin accentué de bibliothèque. Besoin accentué, mais aussi différencié selon les publics. Donc, le contexte. Comme vous pouvez vous en douter, 2020 a été une année un peu particulière à la BPI, du fait de la crise sanitaire, et ça s'est concrètement traduit par deux fermetures exceptionnelles, une première à compter de mi-mars de 3 mois et demi environ, et une seconde d'un peu plus d'un mois à compter de fin octobre. À partir du 6 juillet, donc la première réouverture suite au premier confinement, les conditions d'exploitation de la bibliothèque ont été sous contrainte, avec notamment une baisse de la jauge maximale autorisée, donc de plus de la moitié. On est passé de 2134 personnes pouvant être accueillies à la bibliothèque à en gros 1000 personnes, même si ce seuil a légèrement varié selon les périodes. Pour les publics, l'accès aussi à la bibliothèque et à ses services s'est fait sous contrainte et un certain nombre de services ont été réduits ou supprimés. À partir de décembre, il y a eu l'interdiction du travail en groupe. Et là, les autres interdictions qui ne sont pas exhaustives donc sont à partir de juillet. Il y a la réduction de l'accès Internet avec le blocage des principaux réseaux sociaux, le port du masque obligatoire, la fermeture de la cafétéria. Et également, à partir donc du 6 juillet, la mise en place de deux régimes d'entrée. Sur une première partie de journée, les entrées se faisaient sur réservation horodatée. Et sur deuxième partie de journée, les réservations se faisaient sur entrée libre. Par contre, on peut noter que ce qui a été maintenu, c'est la possibilité de pouvoir travailler sur place et de faire des séjours longs sur place et d'utiliser directement les collections en accès libre. Les conditions de 2020 ont aussi eu des impacts sur l'amplitude horaire, avec à partir donc de fin octobre et la mise en place des couvre-feux, la mise en place de fermetures anticipées à la bibliothèque, donc à 19h puis à 20h. Donc dans ce contexte, le service études et recherche a suivi trois fils pour faire son observation du public. D'une part, la réalisation d'entretiens qualitatifs courts, effectués sur place durant les périodes d'ouverture de la bibliothèque. Une trentaine d'entretiens ont été faits comme ça. Un questionnaire qui était diffusé avec les mails de confirmation aux personnes qui faisaient des réservations. On a eu un peu plus de 400 réponses. Et un traitement élargi des données d'entrée-sortie pour la fréquentation. Donc, notamment à partir des données d'entrée-sortie, on a pu essayer de faire une photographie globale de la fréquentation 2020. Et donc, le premier point qu'on peut regarder pour cette photographie, c'est la question des entrées. Donc, on est à un peu moins de 500 000 entrées enregistrées en 2020. Donc, ça représente, par rapport à 2019, 64% de baisse, si on l'exprime en termes de chiffres bruts. Donc, ça peut paraître relativement important. Mais si on prend en compte ce contexte exceptionnel de l'année 2020, en fait, on est plutôt sur un diagnostic de baisse modérée de la fréquentation, dans la mesure où, parallèlement, la capacité d'accueil a été réduite de 53%, et qu'en plus, un certain nombre d'autres services ont été soit réduits, soit supprimés. Et ça, c'est sans compter les autres contraintes qui pesaient sur le public en dehors de la bibliothèque. Donc, le premier élément qui plutôt vers l'idée d'une stabilité. Un autre point, c'est que parmi ces entrées effectuées en 2020, la plupart, à partir de juillet, ont été effectuées sur un régime d'entrée sur réservation. Or, il nous a semblé pouvoir observer que les entrées libres restaient, pour l'ensemble du public, plus attractives que les entrées sur réservation. Comment est-ce qu'on fait cette hypothèse? C'est que le 20 juillet, l'amplitude horaire d'accès libre augmente de 3 heures. Et dans la foulée, dans la semaine suivante, le nombre d'entrées hebdomadaires moyennes augmente de 24%. Quelques mois plus tard, le 19 octobre, il y a une réduction de l'amplitude horaire de 3 heures, de l'amplitude horaire des entrées libres. Et on observe la semaine suivante une baisse du nombre d'entrées moyennes hebdomadaires. C'est une question qui ressort aussi dans les entretiens effectués avec les usagers. Les réservations ont été globalement bien utilisées et bien, semble-t-il, bien réappropriées par une diversité de publics. Et c'est un point qui ressortait aussi des entretiens effectués, avec l'idée chez les usagers qui entraient sur réservation ou en entrée libre, que le fait qu'il y ait une offre d'entrée libre, ça a créé une image pour la BPI d'une bibliothèque qui était a priori accessible et où, de toute façon, quel que soit le niveau d'anticipation du projet de visite, le niveau de préparation, on pourrait de toute façon rentrer, quels que soient les aléas, on arriverait à rentrer à la BPI. C'était un peu le raisonnement qui était fait. Et c'est un raisonnement qui a sans doute joué, notamment sur les premiers mois de réouverture, où on avait où les usagers avaient une vision un peu floue de l'offre de lecteurs publics en Île-de-France. Un deuxième point de cette photographie générale de la fréquentation, c'est le fait de regarder des indicateurs qui prennent en compte justement ce nombre, soit ce volume horaire, soit ce nombre de places disponibles. Donc si on regarde le taux d'occupation ou le nombre de remplissages, on est encore sur cette idée plutôt d'une baisse modérée, donc avec un taux d'occupation qui recule de 4 points entre 2019 et 2020, et un nombre de remplissages qui passe de 2 à 1,9. Donc on n'est pas sur une chute abyssale. Voilà. Donc là, on serait plus sur l'idée qu'en fait, la fréquentation a suivi la réduction du périmètre du service offert par la bibliothèque, puisqu'il n'a subi une chute brutale. Un autre point qu'on peut regarder, c'est la question de la saisonnalité. Et si on regarde les taux d'occupation, la répartition des taux d'occupation selon les mois, donc c'est le petit diagramme en haut à droite, on voit en fait que comparé à 2019, qui était une année classique en termes de saisonnalité, que les mois les plus fréquentés restent globalement les mêmes, les variations sont globalement les mêmes. Donc la manière dont le public se répartit sur l'année en intensité d'utilisation de la bibliothèque ne semble pas fondamentalement changer. Et pareil, si on regarde la répartition hebdomadaire de ces taux d'occupation, on a le cycle classique de variation d'intensité dans l'occupation de la bibliothèque, donc un cycle décroissant du lundi au vendredi et croissant du samedi au dimanche. On a observé éventuellement, mais de façon assez légère, une sorte de tassement dans la répartition hebdomadaire des taux d'occupation, où là, l'hypothèse, ce serait que éventuellement le télétravail ou les cours en distanciel ont peut-être un peu gommé certaines spécificités chez les étudiants, dans leur pratique qui se concentrait peut-être d'habitude sur certains jours, notamment le dimanche, où du coup, là, il y a eu peut-être une répartition un peu plus générale sur les jours de la semaine. Mais ça reste assez léger. Enfin, dernier point pour la photographie générale, c'est la question de la durée moyenne de séjour. Pareil, on est sur cette idée de baisse relative, dans le sens où en 2020, la durée moyenne de séjour baisse de 13 minutes par rapport à 2019. Mais comme on évoquait un peu avant, l'amplitude horaire du fait des fermetures anticipées a aussi été réduite de 29 minutes en moyenne sur l'année. Et donc, en fait, si on fait le ratio du temps passé sur l'amplitude horaire, on est encore sur ce constat de stabilité. On peut même dire que 2020, le ratio de 2020 est supérieur à celui de 2018. Donc voilà, il n'y a pas, semble-t-il, de changement si on considère la fréquentation vraiment dans son ensemble et si on prend en compte le contexte. Donc là, sur le comment le public est venu, ça ne semble pas être fondamentalement modifié. Par contre, il y a peut-être quelques points d'inflexion qui sont intervenus dans le qui est venu. Donc là, on est sur les résultats du questionnaire diffusé avec les mails de réservation. Et donc, sur le premier point, les constantes dans la structure du public, on voit que l'âge moyen... Alors là, on compare en fait les résultats de 2020 avec les résultats de la dernière étude de public de 2018, où a été produit un échantillon représentatif du public. Et donc c'est un peu l'échantillon, le maître étalon sur lequel on a comparé les résultats de l'année dernière. Donc on voit que sur l'âge moyen, il y a très proche. La proportion d'étudiants, les étudiants en premier public de la BPI est très proche. Le travail sur documents personnels reste la première activité pour laquelle les usagers viennent. Par contre, quelques changements semblent être intervenus. On a enregistré une proportion beaucoup plus importante de nouveaux visiteurs, c'est-à-dire de visiteurs qui sont venus à la BPI à compter de la première réouverture, donc à compter du 6 juillet. Dans cette population-là, 21% étaient venus pour la première fois le jour de la réponse au questionnaire. Or, en 2018, cette part des personnes qui étaient venues pour la première fois le jour de leur réponse au questionnaire était à 8%. On a enregistré aussi éventuellement, semble-t-il, une féminisation un peu du public, même si ça peut aussi être un peu un biais du fait que ce questionnaire a été auto-administré. Et la part du public issu d'Île-de-France hors Paris a également progressé. Donc ça, c'est le détail des origines, enfin des lieux d'habitation du public sur la période donc de la réouverture de juillet jusqu'au 30 avril 2021, où on voit donc cette majorité, enfin le public de banlieue qui est devenu majoritaire, et avec un contingent important aussi, notamment du 9-3, avec plus de 15% dans les répondants. Un autre point qui a été intéressant avec la mise en place du système de réservation, c'est que ça nous a permis d'enregistrer la récurrence de fréquentation des usagers, enfin, en tout cas de la récurrence de leur réservation, et de le comparer avec les récurrences déclarées dans l'enquête de 2018. Donc là, on a fait une comparaison sur le premier trimestre 2021. Et là, on est plus sur l'idée d'un changement, c'est qu'on voit que les publics qui annonçaient des fréquences très fortes de fréquentation de la bibliothèque, donc qui venaient par exemple une ou deux fois par semaine, on passe de 2018 de 39% à 7% sur le premier trimestre 2021. Et les personnes qui déclaraient en 2018 venir tous les jours ou presque, on enregistre moins de 1% de réservations qui correspondent à ces fréquences. Alors après, il y a une part des personnes qui viennent tous les jours qui venaient sûrement en entrée libre, donc on n'a pas pu les enregistrer, mais ça rejoint aussi un constat empirique qui est fait par un certain nombre de collègues en service public, c'est qu'il y a beaucoup d'habitués qui ne sont pas revenus, et voilà, on ne sait pas où ils sont. Et donc ça peut être un premier élément d'explication. Un deuxième élément d'explication, c'est aussi le fait qu'il y a un public nouveau qui est arrivé, mais qui n'a peut-être pas encore développé une relation forte à la BPI et des habitudes, ou qui était sur des fréquentations un peu ponctuelles, opportunistes, qui fréquentaient la BPI du fait de la fermeture d'une autre bibliothèque. Du coup, sur la quatrième partie, donc un besoin accentué de bibliothèque, là on va se baser sur les commentaires libres laissés dans le questionnaire et sur les entretiens effectués en salle. Donc là, c'est un petit diagramme qui vous montre les cinq sujets les plus abordés dans les commentaires libres du questionnaire. Et chaque sujet est... commentaire est compté et classé entre des commentaires plutôt négatifs ou suggestions d'amélioration, critiques, suggestions d'amélioration, et d'un autre côté, commentaires de gratitude et de remerciements. Donc le premier sujet à aborder, sans qu'on leur demande, par les personnes qui ont répondu au questionnaire, c'est la question du besoin de bibliothèque et dans quelle mesure la BPI venait combler un besoin, dans quelle mesure la BPI était « sauveuse » entre guillemets pour à certains moments de la vie, notamment pour les examens. Donc voilà, beaucoup de messages de remerciements, de gratitude. Le deuxième sujet qui a été abordé, c'est la question des réservations, où là, c'était un sujet plus clivant, où on était sur, donc en gros, un tiers de commentaires qui étaient plutôt sur de la critique, suggestion d'amélioration. Un autre tiers qui était plutôt sur vraiment une critique du principe même de la réservation, parce que ça accentue la fracture numérique, parce que c'est contraire avec le principe d'accessibilité de la bibliothèque, de la BPI en particulier. Et en même temps, une autre partie du public, moins importante, en tout cas dans la manière dont elle s'est exprimée, mais qui adhérait pour le coup vraiment au principe de la réservation, au nom soit d'une plus grande efficacité, ou voire même d'une plus grande équité par rapport au système de file d'attente, où ouais, on ne peut pas gruger, entre guillemets. Bon, même si en fait on pouvait gruger les réservations, mais ces personnes ne le savaient pas. L'autre sujet, c'était la réouverture, enfin le fait d'avoir réouvert précocement. Et là encore, on était sur des retours globalement, de manière écrasante positive. Ça rejoint un peu la question du besoin de bibliothèque. L'autre sujet où là c'était plus moitié-moitié, c'est la question des conditions, enfin du protocole sanitaire. Donc en fait, c'est l'accès aux services en mode dégradé, où on avait une part des commentaires qui étaient des commentaires, on va dire, de remerciement ou l'usagère. Voulaient nous faire un retour sur le fait qu'ils avaient conscience que c'était dur et que l'institution avait réussi à s'adapter à ce contexte difficile et tenait à les remercier. Et de l'autre, des usagers qui manifestaient aussi le fait qu'il y avait certaines mesures comme le port du masque ou la fermeture de la cafétéria ou le fait de ne pas pouvoir sortir, fumer ou manger, qui manifestaient une certaine pénibilité de ce mode d'exploitation de la bibliothèque. Donc voilà sur un peu là, les commentaires libres. Et pour finir, je vais essayer de vous dresser 5 portraits robots issus des entretiens qu'on a faits avec les usagers, où là, on sera dans l'idée d'essayer de caractériser leur rapport spécifique à la BPI à travers 5 archétypes. Et ce premier archétype qu'on a le plus nombreux, qu'on a pu identifier, c'est le profil de l'étudiant nomade. Pour le caractériser, un premier truc qu'on peut dire, c'est que ils ont un rapport à la bibliothèque de compétiteurs utilitaristes. Compétiteurs utilitaristes parce que donc ils ont une approche de la bibliothèque utilitaire qui est motivée par un contexte d'épreuve extérieure. Donc le cas typique, c'est l'étudiant qui vient préparer un concours, qui vient réviser, qui vient bachoter. Ils nous décrivent le monde extérieur comme étant un peu darwinien. Une des personnes nous dit, quand on lui dit qu'elle est motivée quand même de venir du fin fond de l'Essonne un samedi en juillet, sous la chaleur, elle nous dit « oui, mais la compétition est rude ». Donc il y a cette idée de la place, enfin de la lutte pour les places qui est très rude. Pour ces étudiants, en tout cas qui est un peu anxiogène, et du coup ça développe chez eux, ça les pousse à développer une sorte de rapport quasi sportif à l'étude, où certains nous disent on est en prépa et on a envie de travailler pendant les vacances pour ne pas trop perdre la main. Il y a une question d'entraînement presque réflexe à l'étude, à la concentration, et la bibliothèque est un outil pour ça, dans ce contexte d'épreuve extérieure. Ces usagers-là ont des séjours très longs, voire très longs. Donc là, on a un extrait d'entretien d'une personne qui vient rédiger sa thèse à la BPI et qui nous dit « j'espère venir tous les jours, du lundi au dimanche, et passer 8 heures à rédiger ». Ça, c'est un cas un peu extrême, mais on enregistre dès qu'il y a plus d'étudiants, les jours où il y a plus d'étudiants, que la durée moyenne de séjour augmente mécaniquement. Et dans ce qui était déclaré, ils étaient tous, enfin en tout cas la majorité, sur des séjours de plus de 5 heures. Un deuxième point pour essayer de les caractériser, ces étudiants nomades, c'est que ce sont des pragmatiques sociaux en réseau. Donc, pragmatiques sociaux en réseau parce que ils sont dans une sociabilité diffuse de réseau qui est vectrice de fréquentation de la bibliothèque pour eux. Donc l'un d'entre eux nous dit « Je crois que ça arrive en masse. J'ai des amis qui me rejoignent après. Si tout le monde se motive, on devrait être une bonne dizaine. » Donc là, on voit qu'il ne donne pas des rendez-vous individuels. Il vient à la BPI dans le cadre d'une relation de réseau. Il fait partie d'un groupe un peu diffus qui fréquente la BPI et ça le pousse en partie à fréquenter la BPI. Il y a cette dimension de recommandation par les pairs qui est aussi indiquée là dans la citation suivante. Pour travailler, une étudiante qui nous dit je suis venue ici pour travailler avec une camarade qui a l'habitude de venir. Elle m'a conseillé la BPI. Donc sociabilité de réseau chez un public qui a tendance à avoir une fréquentation, pas d'une bibliothèque en particulier, mais d'un réseau de bibliothèques. Une fréquentation qui dans leur discours, semble assez agile et experte. Un premier nous dit quand on lui demande comment il a eu l'idée de venir. On cherchait une bibliothèque. J'avais l'habitude d'aller à la Bulac, mais elle était fermée. Un autre nous indique dans la citation suivante qui surveillait si les bibliothèques allaient réouvrir. Donc il y a cette idée qu'il fait de la veille informationnelle sur l'offre de bibliothèques. Et il nous dit ensuite qu'il est multifréquentant, mais qu'au vu des conditions à la BNF, là, pour ce coup-ci, il a préféré aller à la BPI. Donc il y a presque une démarche de benchmark entre les bibliothèques et avec un positionnement très, très rationnel d'arbitrage. Et c'est ce qui ressort assez bien, je trouve, de la dernière citation, où l'usager nous dit « La BNF, c'est plus compliqué, c'était en juillet. Apparemment, elle est saturée pour ceux qui n'ont pas réservé pour la semaine prochaine. À la BPI, les modalités de réservation sont plus flexes. » C'était un usager plutôt BNF à la base, mais là, il a basculé sur la BPI au vu d'une hypothétique, il n'y était pas encore retourné, au vu d'une hypothétique phénomène de saturation à la BNF. Donc voilà, des usagers assez experts. J'avais même l'impression que je pouvais discuter avec lui de saturation et du cours de la place assise en bibliothèque en région Île-de-France. Troisième point pour essayer de caractériser ces étudiants nomades, c'est que ce sont des sensibilités en quête d'attention. Donc pourquoi cette expression ? Parce que la grande majorité nous indique qu'ils sont autonomes ou généralement autonomes sur leurs outils de savoir. La collection peut être utilisée, mais elle est à chaque fois citée comme étant en option. Et donc voilà, premier point. Deuxième point, c'est que certains ont besoin de places assises, ont un besoin objectif de places assises, d'autres non. C'est pas vraiment une constante. Donc la première citation, il y a une personne qui revient en juillet à la BPI et qui nous dit « Chez moi, c'était pas trop facile. » Il indique qu'il n'y a pas de livre chez lui et que c'était impossible de travailler. On lui demande pourquoi, pas assez de place, trop de bruit. Voilà, il nous dit de manière un peu dépitée, oui, c'était le bazar, et là, on se motive à travailler. Donc il y a cette idée que chez lui, il n'y a pas les conditions matérielles nécessaires pour travailler, pas forcément d'espace séparé au calme, pas de livres, pas forcément de ressources, suffisamment de ressources dédiées, et que ça ne le met pas dans les dispositions subjectives, l'état d'esprit propice à se sortir de son environnement social et travailler sur son parcours d'étudiant. Par contre, un autre, et ce n'était pas le seul, nous dit ce n'est pas que j'en ai vraiment besoin d'espace de travail, c'est que c'est beaucoup plus agréable de travailler en dehors et ça permet de voir du monde. Donc là, on est sur l'idée qu'il n'y a pas ce besoin matériel de place assise. Par contre, c'est pour le côté plus subjectif. Cette personne vient, comme pour la première, à la bibliothèque parce que ça lui permet d'être dans certaines conditions d'esprit, certaines dispositions mentales, psychologiques, qui l'aident à se concentrer, à travailler. Et ça, c'est vraiment le dénominateur commun, en tout cas, nous semble-t-il, dans ce que nous ont dit ces étudiants nomades, c'est qu'ils viennent pour avoir accès à leur propre faculté d'attention ou réavoir accès à leur propre capital d'attention. Et la bibliothèque, dans son usage, semble être un peu comme une mesure protectionniste par rapport à un marché de l'attention à l'extérieur où c'est l'objet de multiples prédations. Et ils viennent pour échapper aux notifications, pour échapper aux tentations vidéoludiques, aux tentations sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, même s'il n'y a pas de dispositif technique qui brouille l'accès à Internet ou autre. La bibliothèque permet, dans leur dire, par ses murs, par son ambiance, par son ambiance sonore particulière, par la coprésence des corps à l'étude, donc en fait par le sensible, c'est ça qui leur permet d'avoir accès à leur propre capital d'attention et à se mettre à travailler en fait. Et c'est vraiment en fait ce que tous viennent chercher selon le, voilà, au-delà des différents profils, ils viennent chercher d'autres personnes qui sont, enfin d'autres corps qui sont en train de travailler. Certains viennent dans le cadre de relations sociales, d'autres non, mais ils viennent tous chercher la proximité d'autres corps en train de travailler et ils arrivent à cet état de travail par les cinq sens, quoi. Le deuxième profil qu'on a pu rencontrer, donc, c'est celui des télétravailleurs, télétravailleuses, où là on retrouve un peu des points communs avec les étudiants nomades. Ils sont aussi autonomes sur leurs outils de production, parfois utilisateurs de la collection, mais c'est présenté comme étant une option. Après, ça peut aussi, cette existence du service collection peut, si on est sur l'idée de comparer entre différents espaces de coworking, du coup, la présence d'une collection pour le coworking bibliothèque, ça devient un avantage comparatif qui pousse au choix de la bibliothèque, puisque c'est un service en plus. Et en plus, voilà, c'est gratuit. Et eux aussi, ils viennent chercher, dans ce qu'ils nous disent, un dispositif sensible où ils arrivent à se mettre à produire. Ils viennent chercher une ambiance. Donc là, c'est assez bien dit dans la citation. Donc d'une personne interviewée en juillet en espace presse. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment être dans les lieux, avec des gens, ce bruit de bibliothèque et de pouvoir fouiller dans les rayons, m'y asseoir, lire, parfois prendre un café, prendre possession du lieu. Donc en fait, la personne nous parle un peu des collections, mais en fait, c'était une personne qui venait travailler et qui ne venait pas utiliser les collections. Donc en fait, la personne était venue pour travailler sur ses propres ressources. C'était un professionnel, mais là, elle était en train de se distraire, de papillonner un peu en regardant les revues avant de se mettre au travail. Donc ensuite, il nous parle vraiment de son projet de visite. J'aime peu travailler chez moi. Alors, on n'a pas été très gâtés dernièrement avec le télétravail, mais ce n'est pas trop pour moi. En tout cas, dans mon domicile, j'aime bien que ça reste un endroit neutre, privé. J'aime bien bosser dans des lieux extérieurs et les bibliothèques en font partie. Et là, dans cette citation et dans celle suivante aussi, l'impression qui ressort, c'est que la personne, ces usagers-là, viennent peut-être pas tant chercher le troisième lieu qu'à travers le troisième lieu, ils viennent chercher une sorte d'émulation ou de souvenir du deuxième lieu, de l'espace de socialisation par le travail, chose auxquelles ils n'ont pas accès en tant que télétravailleurs à distance. Mais là, l'impression qu'on avait, c'était qu'ils venaient chercher certaines sensations du travail traditionnel d'antan, entre guillemets, parce que leur corps en avait encore besoin pour réussir à travailler, pour être productif. Et il y a aussi donc ce qui ressort peut-être plus de la deuxième citation, cette idée de rupture, de stratégie de rupture de l'isolement du télétravailleur qui par ailleurs n'est peut-être pas relégué économiquement, mais il y a cet enjeu. Voilà. Troisième portrait robot, donc l'autodidacte pragmatique. Donc là, on est sur l'idée plutôt de personnes qui sont dans des démarches individuelles de reprise d'études, de formation continue, qui nous évoquent aussi un contexte extérieur, comme pour les étudiants nomades, d'épreuves extérieures. Et donc voilà. Cette fois-ci, ils ont tendance à être plutôt dépendants des collections ou des services proposés à la bibliothèque. Et ils viennent aussi chercher des ressources matérielles, donc des places assises, pour pouvoir se concentrer, travailler. Et aussi la disposition d'esprit qui leur permet de se mettre au travail. Donc là, dans l'extrait d'entretien mis, donc c'est une personne qui suite au confinement, a perdu son CDI et raconte que ça lui a donné un temps de réflexion et qui décide de faire une reprise d'études, de passer du bac plus 3 à essayer de tenter un master du fait de niveau de salaire qu'il considère comme trop bas. Et donc il dit, ça m'a permis de faire le point avec ça et de me dire que finalement, j'ai encore le temps, autant recommencer et reprendre. Donc là, il était vraiment en train de se préparer à un projet vraiment de mobilité sociale, de tentative de mobilité sociale, donc sur un projet sur le temps long, potentiellement semé d'embûches. Et il donnait un peu l'impression d'un navigateur qui se prépare, qui va dans une salle des cartes, qui prépare son périple. Et il évoque aussi le besoin matériel. Donc, personnellement, à la maison, il y a du bruit, il y a les enfants, il y a tout. Quand je suis allé à BPI, je suis vraiment au calme, je suis tout seul, personne ne m'embête, ça m'arrange de venir ici. Je suis vraiment dans mon petit cocon, tout seul, je peux étudier, je peux faire mes recherches, je peux faire ce que je veux. Donc, il y a aussi cette idée d'espace, d'outils, de travail sur soi. Il était dans un carré individuel et l'impression qu'il donnait dans l'entretien, c'était qu'il avait besoin de sa petite cellule monastique pour se redévelopper individuellement. Quatrième portrait, les navigateurs tristes numériques. Donc là, on est plutôt sur le profil d'usagers qui viennent se connecter à Internet, à la BPI. Donc aussi, ce sont des usagers plutôt dépendants des services de la bibliothèque qui sont touchés par la fracture numérique. Par exemple, l'une d'elles nous dit, donc c'est la troisième citation, donc parce que les bibliothèques de Paris étaient fermées également, donc celui qui n'a pas d'ordi chez soi était coupé du monde. Et dans certains cas, il y a des tiers qui peuvent aider ou inciter à l'accès à la bibliothèque. Donc le deuxième entretien donc avec la personne réfugiée, cette personne est allée à la BPI sur recommandation de son assistante sociale. Et donc il y a aussi il y a un petit paradoxe éventuellement avec les étudiants nomades où eux ils viennent un peu pour se déconnecter. Et là c'est un public qui vient pour se connecter à un flux d'informations auquel ils n'ont pas accès par ailleurs. Mais il y a toujours cette idée de la bibliothèque comme outil de maîtrise d'un flux d'informations, que ce soit pour ouvrir le robinet ou le fermer. Mais c'est un lieu de maîtrise du flux informationnel. Et enfin, le cinquième profil qu'on a rencontré, mais c'est le moins nombreux, enfin, c'était les profils les moins en quantité, les moins importantes, c'était les chercheurs, chercheuses de documents. Pour eux, il n'y avait pas vraiment de problématique particulière. Ils nous décrivaient leur rapport à la bibliothèque. Donc, ils se décrivaient comme usagers et personnes qui appréciaient le libre accès. Ils décrivaient leur rapport plutôt en mode accès autonome aux collections et aux services de la bibliothèque. Et en tout cas, ceux qu'on a rencontrés se décrivaient comme des connaisseurs de la maison. Et ils venaient sur des durées beaucoup plutôt moyennes, donc de 2 à 3 heures, donc sur des objectifs précis de recherche documentaire. Donc quelques éléments pour tenter de conclure. Donc si on regarde la fréquentation de la bibliothèque prise dans son ensemble au niveau des indicateurs macro, on est plutôt sur l'idée d'une utilisation stable de la bibliothèque. Qui a plus suivi la réduction du périmètre du service ou l'intensité du service qu'elle n'a changé fondamentalement dans ses modalités. Par contre, chez les publics, il semble qu'il y ait eu quand même quelques inflexions dans la structure et les usages, notamment la question des habitués. Il y en a une partie qui semble ne pas être revenue. Chez ces habitués, c'était... On pense surtout au public à un profil socio. Et donc, c'est aussi la possibilité que ce public-là ait été plus durement impacté par la crise et n'ait pas été en capacité de revenir. Un fort besoin de bibliothèque a été exprimé, à divers, que ce soit dans les entretiens ou dans les commentaires libres du questionnaire. Et donc on a vu des rapports assez divers qui ne se recoupaient pas forcément selon les publics, des rapports divers à la bibliothèque, mais avec quand même quelques fonctions transverses, quel que soit le profil de public, notamment cette idée de bibliothèque comme espace sensible, en fait, comme des murs avec une certaine ambiance, un certain état de stimulation des sens qui permet la concentration. Et aussi cette idée d'un outil de maîtrise du flux d'informations ou de concentration d'attention. Voilà. Si vous avez des questions, est-ce que c'est pour ceux qui travaillent en bibliothèque, est-ce que... Alors après, la BPI, c'est un peu particulier dans le sens où il y avait cet usage du travail sur place qui était possible et qui n'était pas été forcément possible dans les bibliothèques de lecture publique où c'est qu'on pratiquait le drive. Mais je ne sais pas, est-ce que ça recoupe un peu ce que certains ont pu voir ou vivre ou entendre.
Merci. Donc moi, c'est Julie Dufrat, je travaille à la BPI, donc je vais plutôt compléter ce qu'a dit Damien. J'étais très intéressée par ce que tu as dit sur les nouveaux publics. Je trouve qu'on le voit vraiment. Et ce qui m'a notamment marqué, c'est beaucoup d'étudiants étrangers. On en a beaucoup vu lorsqu'on faisait des valorisations avec des collègues, beaucoup plus que d'habitude. Donc je ne sais pas si c'est sensible par ailleurs, mais ça m'a vraiment marqué parce que ce n'est pas des profils qu'on voit beaucoup. Et là, pour le coup, des nouveaux étudiants qui découvraient la BPI, qui ne parlaient pas français... Ça m'a beaucoup marqué, donc je voulais aussi rajouter ça.
C'est quelque chose qui est un peu sensible aussi dans l'enquête qu'on fait en ce moment sur le retour à l'entrée commune de la BPI en Piazza. Effectivement, en tout cas, on sent qu'il s'est passé quelque chose là. Daniel l'a bien montré, quoi. Ça a fait bouger la BPI sur. On va dire sur ses bases, hein, en ce qui concerne la fréquentation publique. Tout n'a pas bougé, puisqu'on voit qu'au niveau de la fréquentation, bizarrement, on était surpris de voir qu'il y avait, évidemment, à jauge égale, une forme de stabilité quand même dans la fréquentation, mais dans les profils, dans les pratiques, des choses qui changent. Et effectivement, en tout cas, sans doute, des habitués qui ne sont pas revenus ou qui reviennent de façon beaucoup plus occasionnelle. Il faut dire qu'ils sont considérablement bloqués aussi, mais ça doit nous alerter sur la suite, puisque la BPI va entrer dans une phase de chantier, puis par la suite, elle va entrer dans une phase de chantier beaucoup plus grande quand le centre sera fermé et que la BPI sera relogée temporairement dans un autre lieu. Et c'est intéressant de voir aussi, évidemment, quelle attention on peut porter à ça, parce que ça va avoir des incidences fortes sur la fréquentation, mais sur la suite de la fréquentation aussi.
Désolée, c'est à nouveau la BPI parle à la BPI. Juste, par rapport aux habitués, je ne sais pas si vous avez pu prendre en compte la distribution des tickets. Et je pense que ça compense un peu ton faible pourcentage de gens qui le prennent donc sur l'application Influence, donc qui sont identifiés. Par contre, on a une frange du public qui, dès son entrée, prend son ticket, puisque les collègues de l'IG distribuent aussi des tickets. Et je pense que ça relève un peu notre taux d'habitué, peut-être. Et alors, d'autre part, là, je me permets de faire une incise, parce qu'avec Christophe, on a eu une petite stagiaire, je dis petite, enfin, elle était grande, qui a travaillé sur le public âgé, principalement, et l'isolement des personnes âgées. Et je pense qu'on va, comme tu disais, tirer le fil, parce que c'est contrairement à... Alors, j'aime beaucoup tes portraits robots, c'est très éclairant. Et le travail de Lucie a montré qu'il y avait aussi des gens qui étaient viscéralement attachés à la BPI en tant que, par toutes ses spécificités, et qu'il n'y avait pas de premier, deuxième, troisième lieu. Pour eux, c'était quasiment leur lieu de vie. Voilà, alors ça, c'est une réalité qui continue et je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, surtout dans la perspective de 2023. Voilà, et comment on peut un peu s'y prendre en considération ces publics qui ont vraiment un besoin de la BPI qui est autre qu'une simple bibliothèque. Voilà, merci.
Là-dessus, on avait un peu une idée d'un sixième portrait robot, mais on n'en avait pas assez rencontré, entre guillemets, mais on ne savait pas trop comment le caractériser. Il y avait cette idée d'un peu d'individu dans la foule, mais c'était des gens qui venaient faire qui avaient des pratiques qui semblaient un peu privées, en fait, qui venaient juste lire leur propre livre, par exemple, à la BPI, mais qui, avec cette idée de volonté de rupture. Par rapport à un isolement, ou juste d'être dans un espace collectif, quitte à faire des activités qu'ils pourraient totalement faire chez eux, mais bon, qui n'étaient pas de l'étude, on ne savait pas trop comment les... on n'en avait pas vu beaucoup, mais ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ces piliers, le public qui fait presque plus partie des murs que du flux de public...
T'as raison de le souligner, Fanny. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir articuler intelligemment les résultats de cette étude avec celle qui a été conduite par la stagiaire qui s'est vraiment centrée sur les usagers seniors de la BPI, voire les plus de 65 ans. Et les plus de 65 ans, c'est juste 3% des publics de la BPI. Donc, par certains côtés, d'un point de vue statistique, c'est marginal. Mais quand on les interroge sur le sens que la BPI représente dans leur existence et dans leur quotidien, elles structurent tout leur quotidien. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui déclarent venir tous les jours à la BPI et faire des activités très variées. C'est-à-dire qu'on a tendance à la BPI, moi-même, le premier, à les voir et à les penser plutôt dans des services spécifiques, la musique, la presse, l'auto-formation, les télévisions du monde et certains postes Internet pour accéder justement à Internet de façon libre. Mais elle, son enquête a montré assez rapidement qu'en fait, ils sont disséminés aussi dans la bibliothèque, pas forcément très visibles, mais que la BPI, en tout cas, pour eux, a une importance considérable. Donc 3%, mais pour eux, en tout cas, c'est 90% de leur existence et de leur... et du sens qu'ils donnent à leur quotidien. Bon, là, on fait du commentaire BPI, là, mais vous avez peut-être d'autres témoignages.
Bonjour. Bon, ben, je vais parler des territoriaux. Donc, moi, bon, c'est mon ressenti. Au niveau des habitués, effectivement, il y a un certain nombre qu'on n'a pas revus. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup, de personnes qui sont revenues à la bibliothèque en nous disant « Ah, ben, vous étiez ouvert ». Alors qu'on a bénéficié d'une campagne d'affichage dans toute la ville. Mais je crois qu'avec selon les mois, il y avait des activités qui étaient autorisées, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, je pense ça. Et puis, peut-être les personnes avaient la tête à autre chose, tout simplement. Par contre, on a eu, mais c'est normal, de très fortes empreintes de documents, puisqu'on avait déplafonné le nombre de prêts autorisés. Et ce qui a entraîné aussi, ça c'est le côté interne, mais la gestion de la quarantaine des documents a entraîné une surcharge de travail et de manutention sur plusieurs mois qui a fortement impacté l'activité des collègues. Et aussi, on a eu au bout d'un moment une certaine usure avec des arrêts maladie, des troubles musculo-squelettiques, parce que ça a eu vraiment un impact sur l'activité de la bibliothèque. Après, il y a plein de points qui se rejoignent. Par exemple, nous, on avait proposé aussi l'inscription pour venir. On a arrêté au bout de 3 semaines parce qu'en fait, personne ne s'inscrivait. Ils venaient tous en entrée libre. Donc, on a juste fait en sorte de respecter la jauge. Voilà, on comptait. Mais vraiment, ils nous disaient d'ailleurs qu'ils souhaitaient pouvoir venir librement. Et on n'a pas mis non plus de temps... ils pouvaient rester toute la journée. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, des bibliothèques universitaires de la ville, où ils avaient mis un temps maximum. Et il se trouve qu'il y a eu une enquête de la part de la télévision locale qui a interrogé des étudiants qui étaient à la bibliothèque municipale. Et ils disaient tous qu'ils préféraient venir à la bibliothèque municipale parce que, justement, ils pouvaient rester toute la journée, qu'il n'y avait pas ce délai obligatoire. Voilà. Bordeaux.
on vous a achevé.
Merci beaucoup, Damien. Nous allons conclure très brièvement. Donc, André-Pierre va me rejoindre. Merci vraiment de vous être déplacé et d'être resté toute la journée. On espère que vous avez pu faire votre miel avec ce qui a été présenté au cours de la journée. Bien sûr, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, puisqu'on est certain qu'il y aura une nouvelle édition, qu'elle se déroulera dans très bonnes conditions. Voilà, exactement. Juste peut-être une petite info, et l'année prochaine, nous devrions être en mesure d'en parler, puisque je vais vous parler des programmes de recherche de la BPI. Donc, le programme de recherche qui est en train de se conclure et le programme de recherche qui porte sur les valeurs socio-économiques des bibliothèques. Donc, on espère pouvoir le valoriser au cours de la prochaine journée, et puis sans doute à travers le site pro de la BPI. Et le tout nouveau programme de recherche vient de démarrer. D'ailleurs, Fabrice Carrière, directeur de la bibliothèque, de la médiathèque départementale de l'Eure, fait partie des sites enquêtés. Le tout nouveau programme de recherche porte sur les publics de la musique des bibliothèques, bibliothèques municipales, bibliothèques départementales, mais également bibliothèques de conservatoires, pour essayer de voir quel rôle jouent les bibliothèques pour la musique aujourd'hui et quel rôle aussi les bibliothèques jouent dans l'écosystème musical. Voilà, vous en entendrez parler bientôt. Et je précise que c'est le laboratoire Pacte de l'Université Grenoble-Alpes qui est chargé du terrain.
Voilà, oui, non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que vous pourrez retrouver donc toutes les ressources sur nos sites respectifs et croisés, d'une certaine manière, puisque les enregistrements ont été faits, les mémoires seront publiées et les études le seront également, notamment par la collection dont je parlais ce matin, Études BPI. Donc la vie revient, et nous retrouverons donc l'année prochaine. Je remercie la BPI de nous accueillir tant qu'ils ne sont pas encore en travaux. Merci, bonne fin de journée.
Merci.